Le secret des sonneries de Rosh Hashanah. Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Leorechem Tavim Shanim Nehemim. La Mishnah de Rosh Hashanah 33b dit: la longueur d'une Troua est comme trois plaintes. Une contradiction est relevée immédiatement dans la Gemara. La Baraita dit: la longueur d'une Troua est comme trois Shvarim. Les Shvarim étant des sons entrecoupés, mais d'une durée supérieure à celle des plaintes. La Gemara répond: Abaye dit à ce sujet, évidemment qu'ils sont certainement en désaccord, la Mishnah et la Baraita. Le maître, et voici sur quoi portent leurs différends. Il est dit dans le verset, au sujet de Rosh Hashanah, ce sera pour vous un jour de sonnerie de trois. Yom Teroua Yelachem. La Gemara ne connaît pas la signification du mot Teroua. La Gemara leur apporte la traduction du Targum. Ce sera pour vous un jour de sonnerie de Yevava. Pour traduire ce mot, mais qu'est-ce signifie le mot Yevava? Pour traduire ce mot, la Gemara fait appel à un verset dans les Shoftim, les juges 5-28. Il est écrit au sujet de la mère de Sisra. Par la fenêtre, elle a regardé, elle a pleuré. La mère de Sisra pleurait et dit dans le texte, « Vate Yabeb ». Nous apprenons de là que le mot « teroua » correspond à des pleurs. Mais ce n'est pas fini. Mais quelle forme ont ces pleurs? Alors le maître de la Boraïta pense que la yevava correspond à des gémissements. Donc le mot « teroua » mentionné dans la Torah correspond à celui des shvarim. Tout, tout, tout. L'autre maître, celui de la Mishnah, pense que la yevava correspond à des sanglots. Donc il décrit la teroua que nous faisons. C'est ce que nous appelons teroua. Tout, 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 tout. Un son long. Puis la Gemara poursuit en citant une baraita. Les sages ont enseigné, d'où sait-on que les sonneries de Rosh Hashanah, de teroua de Rosh Hashanah, doivent être produites par un chauffard? Alors la Gemara dit, le verset dit au sujet du jour de Kippour. Le jour de Kippour, on ne sonne pas du chauffard. Mais une fois, dans les 50 ans, on sonnait du chauffard. L'année du Yovel. Il est dit, tu feras retentir la sonnerie de teroua du chauffard. Va avoir un chauffard teroua. Bahodesh shivi'i ba'asor lahodesh. Vous ferez retentir la sonnerie de teroua du chauffard le septième mois, le dix de ce mois. Comment déduisons-nous que même pour les sonneries de Rosh Hashanah, nous devons utiliser un chauffard? Ça, c'est dit dans le, ceci est dit dans Kippour. Mais comment appliquer cela à Rosh Hashanah? Réponse. Il est dans le verset cité précédemment au cours du septième mois. Le jour de Kippour. On sait bien que le jour de Kippour tombe le septième mois. Alors pourquoi est-il précédé le septième mois? Afin d'enseigner que toutes les sonneries de teroua du septième mois soient identiques. C'est-à-dire que de là, nous avons appris que Rosh Hashanah et Kippour, on sonne toutes les deux catégories, sortes de sonneries, les deux jours, on sonne avec un chauffard. Puis il est dit, chaque teroua de Rosh Hashanah, comme celle de Kippour, la nuelle, doivent être précédées d'une kia. C'est de là que nous avons appris. La baraita continue. Et d'où sait-on qu'il faut sonner trois séries composées de trois sons chacune? Il est dit dans le verset au sujet de Kippour, tu feras retentir la sonnerie de teroua du chauffard. Une sonnerie. Au sujet de Rosh Hashanah, il est dit, yom, zechon teroua yelachem. Une deuxième sonnerie. Et puis il est dit, un troisième verset au sujet de Rosh Hashanah, et ce sera pour vous le jour de la sonnerie. Yom teroua yelachem. Une fois il est marqué Yom Teroua Yelachem, Zichron Teroua Yelachem, et il y a une Teroua mentionnée à Kippour. Donc deux fois pour Rosh Hashanah et une fois pour Kippour. Nous avons donc trois versets desquels nous apprenons la mitzvah de sonner trois Teroua'ot, précédées chacune d'une Kia. Parce qu'il y a marqué Va ta'avir ou shofar. La première est dite au sujet de Kippour et les deux autres au sujet de Rosh Hashanah. Comment appliquer ce qui est dit sur Kippour à Rosh Hashanah? Et inversement, il est dit deux fois le septième mois. Le septième mois, le septième mois. Une fois pour Rosh Hashanah, le septième mois, le premier jour du septième mois. Et une fois, il y a marqué, comme nous l'avons vu, pour le Kippour, le septième mois, le jour de Kippour, le dixième, le dix du septième mois. Alors ça nous sert à faire Gzera Shava, une analogie. C'est-à-dire que nous allons appliquer ce qui est dit à Kippour va s'appliquer à Rosh Hashanah, et ce qui est dit à Rosh Hashanah va s'appliquer à Kippour. C'est ce que nous appelons à Rosh Hashanah. En tout, cela fait quoi? Cela fait 9. En résumé, de ce passage, nous avons appris que la mitzvah de sonner le jour de Rosh Hashanah, comme pour le jour de Kippour, uniquement l'année du jubilé, est de 9 sons. 3 teruot qui sont précédés et suivis d'une kia. La Gemara propose une autre source pour apprendre que la teruah doit être précédée et suivie d'une kia. Puis, ayant achevé la discussion concernant ces sources, elle revient sur le différent qu'il y a entre la Mishnah et la Baraita. Concernant le son de la Torah, ressemble-t-il à un sanglot ou ressemble-t-il à un gémissement? Est-ce que c'est une Torah, tout, ou bien c'est un gémissement des Shvarim, tout. Rabbi Abaou a institué, quand il était à Sazeré, que l'on sonne de manière suivante, identique, Kia, 3 Shvarim, 3 Tekia. C'est ce qu'on appelle le Tashrat. La Gemara propose la question, elle pose la question, si tu penses que la 3 ressemble à un sanglot, il suffit de sonner Tekia, Teroua et Tekia. Si tu penses qu'elle ressemble à un gémissement, que l'on sonne alors, Tekia, Shvarim, Kia. Pour quelle raison sonne-t-on les deux sons réunis, Shvarim, 3? Réponse, étant donné qu'il y a un doute, Rabbi Abaou institua de sonner les deux possibilités. Donc, en fin de compte, c'est ce qui a été finalisé, et c'est ainsi que nous faisons toutes les possibilités. Et donc, c'est l'institution de Rabbi Abaou. En fin de compte, nous sonnons 30 sons. Nous sommes obligés de sonner 30 sons. 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, et 3 fois Tarat, de sorte que nous soyons sûrs d'avoir accompli la mitzvah. Le Rambam dit au sujet des règles du shofar au chapitre 3, la Torah mentionnée dans la Torah, nous avons un doute à son sujet dû aux longues années de nombreux exils. Et elle correspond, si elle correspond à un gémissement ou à un sanglot, ou peut-être les deux à la fois. C'est pour cela que nous faisons toutes les possibilités. Selon la Torah, nous devrions sonner que 9 sons. Kia, 3 kia, 3 fois. Mais à cause du doute, nous sommes obligés de sonner 30 sons. Pour certains, pour être certain d'avoir accompli correctement la mitzvah, ceci est l'opinion de Rambam ainsi que celle du Shulchan Aruch. Cette sugya de Gemara soulève a priori de plusieurs interrogations. Il est étonnant que les maîtres ne sachent pas traduire le terme mentionné dans la Torah 3. On ne sait pas ce que ça veut dire 3 et qu'il soit nécessaire d'utiliser un targoum. Et en plus, nous ne sommes pas plus avancés pour autant parce qu'il est nécessaire d'apporter un verset de la mère de Sisra. Et au sujet des pleurs, nous ne savons pas quelle sorte de pleurs c'est. Pour savoir s'il faut sonner du shofar, il faut faire appel aux sonneries de l'année du Yovel, qui ont lieu le jour de Kippour uniquement dans l'enceinte du Medine, une fois tous les 50 ans. Puis nous faisons une analogie entre les sonneries du Yovel et celles de Rosh Hashanah pour savoir qu'il faut sonner une kia avant et une kia après. Ce qui apparaît comme une démarche fastidieuse pour une mitzvah qui se répète d'année en année dans toutes les communautés et qui a une si grande importance. De plus, comment est-il possible qu'à un moment de l'histoire du peuple juif, il apparaisse un doute? Voilà que l'année dernière, on a sonné à la synagogue. Donc, il faudrait que, pendant 100 ans, cette mitzvah-là ait été abandonnée, oubliée, etc. Et avant que Rabbi Abaou institue sa fameuse takana, comment pouvait-on s'acquitter correctement de cette mitzvah essentielle? Le Rhin rapporte la question posée à ce sujet à Rav Aigon. Avant Rabbi Abaou, aucun juif ne s'acquittait correctement de la mitzvah. Il répondit, il ne faut pas croire qu'à l'époque de Rabbi Abaou, il y a eu un doute au sujet de la Torah, puisque la Mishnah est en désaccord avec la Baraita, comme le dit Abaye. Mais il faut savoir que de tout temps, il y avait différentes habitudes dans le peuple pour accomplir la mitzvah de Teruah. Certains faisaient des gémissements, appliquaient cela comme des gémissements, et d'autres faisaient les pleurs. Donc les deux manières étaient justes. Seulement, aux yeux du peuple, cela paraissait comme un désaccord. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre ce qu'a dit Abaye. Ce que fit Rabbi Abaou n'était qu'unifier les habitudes de manière à ce que tous fassent la même chose. C'est-à-dire que selon Rabbi Gaon, comment est-on arrivé à ce que le son de la Torah se dédouble en deux possibilités? Est-ce qu'à l'époque de Moshe, c'était deux possibilités existaient? Bien qu'a priori, il semble que Rabbi Gaon ne soit pas d'accord avec le Rambam pour dire qu'il y a un doute sur la nature de la Torah, mais il faut reconnaître qu'au cours de l'histoire, il y a eu un oubli. Il faut dire, pour éviter ce problème, que depuis l'époque de Moshe, on pouvait faire ou l'une ou l'autre des deux possibilités, ou bien la troisième. Il rajoute dans sa réponse que la déduction que l'on fait de la mère de Sisra n'est qu'un appui, une simane, et non pas une vraie déduction. Le Ramban objecte sur cette thèse. Si nous disons que les Shvarim et la Torah sont les deux le même son, comme le prétend Rav Aigan, alors pourquoi Rabbi Abaou fait sonner Tkia, Shvarim, Tkia? Il était suffisant de faire Tkia, Shvarim, trois Tkia. Puisque la Shvarim et la Torah sont les mêmes sons en fait, il apparaît évident, selon Rav Aigan, qu'à l'époque de Moshe, on ne sonnait pas la dernière série de sons institués par Rabbi Abaou. Donc ça reste un peu obscur. Cependant, le Zohar, Parashat Pinhas, à la page 231b, dit « Au sujet des sonneries de Rosh Hashanah, il ramène le verset des rois. Il est dit qu'il fasse le jugement de son serviteur et de son peuple. » Cela que signifie par jour après jour, ce sont les deux jours de Rosh Hashanah. Pourquoi faut-il deux jours? Ce sont les deux jugements qui se soudent pour n'en faire qu'un. Le jugement d'en haut est dur, et le jugement d'en bas qui est plus adouci. Les deux existent, et c'est à ce propos que les Babyloniens, nous dit le Zohar, allusion au maître du Talmud de Babel, qui ne savent pas les secrets des gémissements et des sanglots, des latérois, des shvarim et de la Torah. Que les deux, ils ne savent pas que les deux sont nécessaires. Les sanglots sont la dureté du jugement, les shvarim, donc c'est la dureté du jugement, et les gémissements, la modération du jugement, la Torah. Eux ne le savent pas, et ils font les deux, mais nous le savons, et nous faisons aussi les deux, de sorte que le chemin de la vérité est emprunté par tous. C'est-à-dire que la Providence a fait en sorte que même les sages du Talmud, qui sont, entre guillemets, ignorants des secrets de la Kabbalah, ont été amenés, malgré eux, à pratiquer cette mitzvah comme le veut la Kabbalah. On se doit de faire ici deux remarques. Rabbi Abaou est un maître du Talmud, de l'époque de Rabbi Yohanan, deuxième génération des Amoréim, qui vivait non pas à Babel, mais en Eretz Israël, à Césarée. Depuis, le Zohar qualifie ces gens, des Tanaïm, les Chachamim, les Amoraïm, d'ignorants des choses secrètes, alors que Rabbi Haïm Vital, à plusieurs reprises, rapporte au nom de son maître, le Rabbi Noahari, Zichron Ibracha, que les maîtres du Talmud avaient une connaissance parfaite des secrets de la Torah. Ainsi, tous les enseignements que nous appelons Agadot, qui sont dans le Talmud, sont en fait des enseignements de la Kabbalah, que les maîtres ont habillés dans ces histoires, pour ne pas les laisser à la portée de tous. Le Zohar, Parashat Emor, 99b, détaille longuement les intentions, les kavanot de chaque son, à quoi cela correspond. Il est évident qu'ils sont tous une obligation pour parvenir à arranger ce que cette mitzvah doit produire. Le Harizal, Zichron Ibracha, a longuement commenté, expliqué les kavanot des sonneries, ainsi que Rabbeinu Arachash. Tout cela est mentionné dans la plupart des marzorim. Toutes les prières introductives des sonneries font mention de ces intentions. Nous demandons que, n'étant pas nous-mêmes en mesure de les pratiquer, qu'il nous soit compté que nos sonneries s'associent à celles des maîtres qui savent appliquer les kavanot. La Mishnah dans Sota, Souka 48a dit comment se faisaient les libations d'eau quand on faisait à Soukot les libations. On remplissait l'eau du Shiloah, le Shiloah étant la source qui était dans le temple. Un récipient en or contenant trois logs. Arrivé à la porte de l'eau, Shahar Amayim, on sonnait une kia, une trois, une kia, etc. Et la Gemara demande, comment le sait-on qu'il fallait sonner? Rav Amina a dit, le verset dit, Vous chavetez maïm besassom imaïne Yeshua. Vous puiserez de l'eau dans l'allégresse aux sources de la délivrance. Rachid explique. Comment sait-on que l'on sonne Tkia 3 et Tkia quand on puise l'eau? Il est étonnant qu'ici, le sens donné à tes rois soit la joie et l'allégresse, alors que dans les sonneries de Rosh Hashanah, c'est les pleurs et l'expression de la douleur. La Gemara Rosh Hashanah, à la page 10b, rapporte la fameuse discussion au sujet du mois de la création du monde. Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de Tishrei. Et Rabbi Yoshua a dit qu'il a été créé au mois de Nissan. Les Tosafot, à la page 27a, rapportent au nom de Rabbeinu Tam que les deux avis sont justes. En Tishrei, la création est dans la conception, dans la pensée. Et en Nissan, c'est dans la réalisation, dans les faits. La pensée exprime la notion de rigueur, alors que l'action exprime la miséricorde et la bonté. Rabbi Eliezer, qui est un élève de l'école de Shammai, disciple de la rigueur, Rabbi Yoshua étant lui un élève de l'école de Hillel, disciple de la bonté. Donc, on a la pensée et l'action, c'est comme ça. Quand vous faites un plan pour construire une maison, alors on établit les choses, sont carrées. Et quand on vient pour les mettre en application, on dit parfois on arrondit les angles. On voit que c'est ce qui est sur le papier n'est pas totalement applicable. Donc on change, on modifie et on adapte. C'est le sens de la bonté. Le Harizal, Alav Hashalom, reprend cet enseignement et l'applique aux deux jours de Rosh Hashanah. Comme l'a dit le Zohar mentionné plus haut, le premier jour s'applique le jugement dur. Le deuxième jour, le jugement modéré. Dit le Rav, le premier jour, l'homme est jugé sur la spiritualité et l'intériorité du monde. Et le deuxième jour, sur l'extériorité et les besoins de ce monde physique. L'intériorité est l'expression de la grande rigueur, alors que l'extériorité est celle de la miséricorde. Comme nous l'avons expliqué, entre la pensée et l'action. Le verset dit, « Mi besari haze Eloha, de ma chair je verrai Dieu. » C'est-à-dire que le monde matériel est à l'image des mondes spirituels. L'homme est créé avec un corps et une âme. De même, les mondes du haut ont un corps appelé Kelim et une âme appelée Horoth. Les lumières, ce sont ces lumières qui font agir les mondes. Mais la perception de cela est ressentie par l'action des corps. Dans la Torah, il est juste, dit le mot terroir, il est comme fermé, inaccessible, incompréhensible. Pour y accéder, nous avons besoin de la Torah orale afin de savoir comment appliquer cette mitzvah. Cela correspond à cette complémentarité qu'il y a entre l'intériorité et l'extériorité. Torah écrite, Torah orale, rigueur et miséricorde. Le Hassid Lutzato, Zichrono Baruch, dans Ma'amar Ha'Ikarim, écrit, il faut que tu saches que l'essentiel des lois, les mitzvot positives comme les interdits, sont tous une transmission depuis Moshe notre maître. Cependant, les maîtres ont reçu que ces traditions, c'est-à-dire comment accomplir les commandements, sont inscrites en allusion dans la Torah écrite de différentes manières. Les maîtres ont reçu que la volonté du Créateur est que nous nous adonnions ainsi à cette partie de manière à dévoiler l'allusion qui correspond à chaque mitzvah. Cependant, la loi est transmise par tradition depuis Moshe. Il ressort de ces paroles que l'étude ne conditionne pas l'application de la mitzvah. Comment la faire? Mais au contraire, nous savons au départ comment il faut l'accomplir, cette mitzvah. L'étude de la Torah orale et l'obligation de relier l'action au texte de la Torah écrite. Il est peut-être possible de dire que même pour la mitzvah de la sonnerie du shofar, son application était une tradition. C'est-à-dire que c'est comme cela qu'elle était appliquée de tout temps. La sugya de Gemara fait la liaison entre la Torah écrite et la mitzvah. De même, il est rapporté dans le Bezeva Zera Birer, Parashat Rukat, au nom du Rabbeinu Ahari, Zichron Ibarra, au sujet de Rabbi Akiva, qui déduisit de nombreuses lois, des points des lettres de la Torah. Quand Dieu montra cela à Moshe, celui-ci eut une faiblesse. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Les maîtres ont dit, ce qui a été dévoilé à Rabbi Akiva ne l'a pas été encore à Moshe. Ceci est très étonnant. Cependant, il convient de comprendre la chose de la manière suivante. Il est sûr que Moshe savait maîtriser toute la Torah, même les nouveautés qui allaient apparaître plus tard. Il les savait oralement. Ce qu'il ne savait pas toujours, c'était de les déduire de la Torah écrite. Cela sera la part des maîtres au cours de générations. De même pour Rabbi Akiva. Rabbi Moshe Zakout, Zichron Ivracha, Dans ces notes sur Otsrot Chaim, développe le secret du Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Au début de l'exil, il dit, il n'y avait pas beaucoup d'étincelles prisonnières, des clipotes, de l'impureté. Les justes et tzadikim ont réussi alors à en arracher de grandes, car le secret du Talmud est de trier le bon du mauvais pour obtenir une fine fleur de farine. C'est pour cela que la valeur numérique du mot Talmud est 480, la même que celle de Lamedyud, Lamedyud Tav, la féminité de la Sitracha, afin de la soumettre en lui enlevant les étincelles qui la font vivre. Plus tard, l'exil s'est endurci et les souffrances se sont multipliées car les forces de l'impureté se sont renforcées. Il était plus possible de faire ce tri à un niveau élevé, uniquement au niveau du Talmud de Babylone, qui est à un niveau beaucoup plus bas que le Talmud de Jérusalem. C'est le sens du verset que nous disons dans les Lamentations. « Il m'a installé dans l'obscurité. »« Bam chashakim o shivani. » Les deux sont l'intériorité des kelim. Ils sont l'éclairage des lois et de l'action. Il ressort de ces paroles que le manque dans le savoir et la compréhension de la Torah est dû à la domination de la force de l'impureté sur la sainteté, qui se développe après la destruction du temple. L'étude du Talmud doit nous permettre de dévoiler les lumières étouffées par ces impuretés. Il est peut-être possible de dire qu'à l'époque du temple, on sonnait des terroirs de joie, comme le dit la Mishnah de Souka, et cela même à Rosh Hashanah. Mais après la destruction du temple, ces sonneries de joie se sont transformées malheureusement en sonneries de pleurs et de souffrances. Il était alors nécessaire de réparer cela par l'étude, pour faire apparaître la lumière par les paroles de la Torah orale qui réjouit les cœurs de ceux qui s'y adonnent. Il est dit dans la Torah, le jour de la Teruah, et nous apprenons que ce sont des pleurs, Yom Teruah Elachem, et on dit Yevava, gémissements aux sanglots, qui se font par le shofar. Rashi explique, les gémissements, comme un homme qui gémit dans son cœur, comme le font les malades par de longs gémissements. Puis il explique, les sanglots, comme un homme qui pleure et se lamente des sons courts et rapprochés les uns des autres. Il semble que les gémissements sont sans larmes. Il n'arrive pas à exprimer sa souffrance et sa douleur. Puis, il y parvient par le sanglot. Nos maîtres ont enseigné que les shvarim qui correspondent aux gémissements sont l'expression de la rigueur absolue. C'est le niveau de Yitzhak qu'il précède les sanglots qui sont l'expression de la modération de cette rigueur. C'est le niveau de Yaakov. Les larmes ont un niveau plus haut que celui de la prière, mais la plainte est encore plus haute. Elle n'est que le son de la douleur. Ainsi, la sonnerie du shofar est l'expression de ces deux niveaux, le son de la douleur et les pleurs. Le shofar est l'objet par lequel s'exprime cette rigueur. Le shofar s'écrit Shin Vav Peresh. Le Shin, le Resh et le Pevav traduisent trois facettes de la rigueur au niveau de la pensée. Mais quand cela s'exprime, la bonté prend le dessus, comme le dit le verset. Dieu de rigueur, Allah Elohim, Bitroa, Hashem, Bekol Shofar. Quand il monte, c'est le Dieu de rigueur, au son de la Teruah qui exprime la rigueur. Mais Hashem, Yod, Ke, Vav, Ke, c'est la bonté au son du Shofar qui exprime la Tkia. Allusion à la Tkia, le son contenu, symbole de la bonté infinie. Une partie des lois de la sonnerie, nous les apprenons des sonneries du Yovel, l'année du Jubilé. Le Zohar, dans Parashat Béar, à la page 108, compare l'année du Yovel à la délivrance future. La sonnerie du Yovel annonce la libération des esclaves, le retour des terres à leurs propriétaires initiaux. De même, au son du shofar, Israël se rassemblera des quatre coins de la terre. Il semble que c'est le sens du lien que le Talmud fait entre les sonneries de Rosh Hashanah et celles du Yovel du jour de Kippour. La miséricorde absolue qui s'est exprimée à la création du monde le jour de Rosh Hashanah et qui s'exprimera avec plus de force à la délivrance finale le jour du Yovel était déjà enracinée dans la pensée première lors de la création. Le Zohar dans Parashat Emor, à la page 99, dit que le son du shofar que nous faisons entendre ici-bas réveille le grand shofar d'en haut qui doit annoncer la délivrance. Rabbeinu Ari dans Shara Kavanot, à la page Tzadik Aleph, au Amouda Gimel, C, 91 C, explique qu'avant la destruction du temple, il était possible, en un seul jour de Rosh Hashanah, de réparer l'intériorité des mondes l'extériorité. Mais après la destruction, cela n'est plus possible. Il nous faut pour cela deux jours. Le premier jour, l'intériorité, hein, c'est le jugement dur. Et le deuxième jour, pour l'extériorité, le jugement apaisé, moins dur, adouci, comme nous l'avons expliqué plus haut. Il est peut-être possible de dire que c'est le même principe qui s'applique au sujet des sonneries de la Teruah. Avant la destruction du temple, il était suffisant de faire ou des shvarim ou des Teruah pour obtenir l'arrangement recherché. L'un des éléments effectués avait la force d'entraîner l'autre grâce à l'intention, à la kavana que l'on y mettait. Mais après la destruction, il est nécessaire de sonner les différentes possibilités comme l'a institué Rabbi Abaoua Césarée. Le Zohar lui-même a assimilé les deux jours de Rosh Hashanah aux deux sortes de sonneries de Teruah, aux deux niveaux de la Teruah, Shvarim Teruah. La dureté du jugement pour le premier jour, ça est liée au Shvarim. La modération du jugement pour le deuxième jour est liée au la Teruah. Cette Tekana a été instituée pour la période de galoute de l'exil. Le Talmud, dans Megillah, Rabbi Abaoua dit, Ekron sera déraciné. Il s'agit de Césarée, la fille de Édom, allusion à l'Empire de Rome, qui a détruit le Second Temple. Si on te dit que Césarée et Jérusalem sont détruits tous les deux, tu ne peux pas les croire. Mais si on te dit qu'elles prospèrent tous les deux, non, si tu ne peux pas le croire. Si on te dit que l'une est détruite et l'autre prospère, cela est possible. Ainsi, la ville de Césarée est assimilée à l'exil de Rome par Rabbi Abaoua lui-même. Tant que celle-ci sera prospère et puissante, Jérusalem, c'est-à-dire le temple, sera en ruine. Il nous faudra alors faire deux jours de Rosh Hashanah et deux sortes de Teruah pour que le son de notre shofar réveille le shofar céleste. Que le shofar retentisse pour annoncer bientôt la délivrance. Donc c'est ça la kavana que nous devons mettre dans la sonnerie fondamentale du shofar. Donc, nous sonnons trois séries de 30 sons qui doivent réparer chacune les trois fautes capitales. La première série répare la Avodah Zara, la deuxième série répare le Gilui Arayot, et la troisième série, celle que l'on dit dans la Hazara de Moussav, répare les Shfichut Damim. Les 10 sonneries finales de Kaddish Tit Kabbal à la fin viennent réparer le Lashon Hara. Et ces sonneries-là sont une force terrible parce que la délivrance, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est la disparition des forces occultes négatives qui nous attachent à la Avera. Yeratzon Kakadosh Baruch Hu fasse que cette année qui vient, qui s'annonce, soit une année de Geoula Shelema et que, enfin, le règne total de la gloire d'Hachem soit rétabli en son monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.